Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jocelyne Moussa Opondé pour le journal. Le gouvernement congolais a appelé à aménager les peines des auteurs d'infractions mineures pour résoudre le problème du surpeuplement carcéral. L'appel est de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Michel Bachelet est d'ailleurs l'invité de la rédaction ce matin. Au Sud Kivu, les agents de l'État sensibilisés à s'acquitter de leurs obligations fiscales pour donner à la province les moyens de sa politique. Cette sensibilisation de 7 jours est menée par le gouvernement provincial. Manifestation hier à Kananga de quelques partis politiques et organisations de la société civile. Ils réclament l'effectivité du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Bonjour à tous. La situation des prisons en RDC est très préoccupante. Ces propos sont de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Michel Bachelet l'a déclaré hier dans une interview exclusive à Radio Okapi. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a bouclé hier son séjour de travail en RDC, propose au gouvernement de désengorger les prisons en aménageant les peines des personnes ayant commis des délits mineurs pour les libérer. On écoute Michel Bachelet au micro d'Alain Rung.
Évidemment, la situation des prisons à RDC est une situation très préoccupante. Nous sommes au courant des conditions infrahumaines dans lesquelles les prisonniers vivent, la surpopulation carcérale, le manque de nourriture adéquate. Mais en fait, nous avons eu à parler avec le gouvernement et ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait. Ils ont parlé d'une initiative qu'ils vont avoir. Ils vont faire le tour de toute la RDC, voir l'état des prisons à RDC. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas en une minute ou en une journée construire des prisons, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des moyens pour diminuer par exemple cette surpopulation. On peut voir par exemple cas par cas les gens qui ont commis peut-être des délits mineurs, qui sont en attente d'être jugés. Peut-être qu'on peut essayer d'aménager, de voir comment est-ce qu'on peut libérer ces gens pour en fait permettre à ces prisons d'avoir un niveau de population moindre. Donc je crois que c'est une bonne initiative et ce qui est bien, c'est qu'on a parlé au gouvernement, au ministre de tutelle, ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait.
La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, est l'invité à suivre avant la fin de ce journal. Et concernant les prisons, justement, la nouvelle société civile du Congo réclame des meilleures conditions des détentions pour les prisonniers de la ville de Boyende, dans la province de la Choapa. Dans un entretien accordé hier à Radio Okapi sur place à Boyende, Gérard Ikoko, coordonnateur provincial de cette structure, affirme qu'il n'y a pas de prison aux normes recommandées. Les personnes en conflit avec la loi sont toutes jetées dans un cachot militaire. Il appelle les autorités à construire une autre prison pour la province de la Choapa. Gérard Ikoko le dit à Paul Matendo.
La ville de Boyende, normalement, n'a pas de prison. C'est une très petite maison qui fut un cachot des militaires indisciplinés et se trouva dans l'enceinte du camp militaire Ndongo. Qu'on jette les personnes en conflit avec la loi, que cette maison carcérale ne répond pas aux conditions recommandées. Les prisonniers éprouvent beaucoup de difficultés, en ce sens que le manger n'est pas là. Les prisonniers sortent parfois eux-mêmes escortés par les policiers pour demander la nourriture au marché central. Il y a des maladies qui attaquent ces prisonniers. Nous avions fait un plaidoyer à ce qu'on puisse déplacer cette prison pour l'ériger à 89 km de Boyende, précisément au chef-lieu du territoire de Befale, chose qui n'a pas été faite. Donc nous regrettons que tout notre plaidoyer, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que jusque-là, nous ne voyons rien.
La société civile du Nord Kivu, quant à elle, appelle à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis dans la région depuis 1998. Selon cette structure citoyenne, depuis cette période, des crimes graves qui restent impunis ont été commis contre les civils au Nord Kivu. La société civile fait également référence aux tueries des civils dans la région de Beni depuis 5 ans au cours des différentes attaques des ADF. On écoute Edgar Matesso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, micro de Martial Pakimukeba.
Nous avons plus de 2000 victimes, voire même plus de 3000 victimes, mais jusque-là, ces crimes ne sont pas qualifiés. On ne sait pas si ce sont des crimes de génocide, si ce sont des crimes de guerre, encore que la guerre n'a jamais été déclarée dans la région. Nous voudrions que un tribunal spécial soit organisé au Nord Kivu pour les crimes commis depuis 1996, c'est-à-dire depuis la guerre de libération, Parce que depuis cette période jusqu'à maintenant, il y a des crimes graves qui sont en train de se commettre dans la région, mais malheureusement qui ne sont pas qualifiés, dont les auteurs ne sont pas identifiés, et aucun de ces auteurs de ces crimes n'a été condamné. Et nous pensons que cette léthargie de la justice risque de continuer à menacer la protection des civils.
Rendons-nous à présent au Sud Kivu pour parler du lancement officiel hier lundi de la semaine fiscale, une période de 7 jours pour sensibiliser les agents de l'État et d'autres assujettis à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Le gouvernement provincial entend ainsi maximiser les recettes du trésor public pour faire face aux multiples défis de sa province. Emmanuel Elamejo Kabedi.
C'est le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabi Diekasi, qui a été le premier à déclarer ses biens privés en payant l'impôt. C'était au cours de la cérémonie du lancement ce lundi de la semaine fiscale. La semaine fiscale est une période de 7 jours ouvrables de la dernière semaine du mois de janvier de l'année en cours. 7 jours pour sensibiliser les agents publics de l'État ainsi que les autres assujettis à la culture fiscale conformément aux lois et règlements. La semaine fiscale vise particulièrement l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties, l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur les concessions minières et des hydrocarbures, ainsi que l'impôt sur les concessions forestières. Le gouverneur du Sud Kivu a déjà institué un système informatique de paiement des taxes et impôts dus à la province. Il envisage combattre le coulage des recettes et la corruption afin de rétablir la traçabilité. Rappelons que le budget provincial du Sud Kivu pour cette année 2020 est de plus de 280 milliards de francs congolais. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Kananga, quelques partis politiques et certaines organisations de la société civile ont organisé hier lundi une marche pour réclamer l'effectivité du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. À la fin de la manifestation, ces organisations ont remis un mémorandum au gouverneur du Kasaï central, Martin Kabuya. Ces derniers ont promis de le transmettre à qui de droit. Reportage François Kadima.
La marche est partie de la place Notre-Dame de Kananga avec comme point de chute le bâtiment administratif de la province. Les manifestants tenaient des banderoles et des drapeaux de certains partis politiques dont l'UDP Tshisekedi, le PPRD, l'UCP et autres pour réclamer l'implication du président de la République sur les travaux de 100 jours au Kasaï central. Ils disent n'avoir pas senti l'effectivité de ce programme d'urgence et veulent voir clair sur les fonds alloués pour la province. Joseph Kachama, rapporteur du groupe, revient sur les travaux qui devaient bénéficier le Kasaï central.
Les routes de Kananga Kalambambouji, Kananga Lac Moukamba, Kananga Kamwesha, les 300 maisons préfabriquées. Les ponts et les bacs sur certaines rivières pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Les forages d'eau potable. Sans oublier la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende.
Recevant leur mémorandum, le gouverneur de province, Martin Kabuya, a réagi en ce terme. Nous allons prendre quelques-uns de vos représentants pour transmettre ces mémorandums au chef de l'État sur les 100 jours et lui-même répondra. Lors de cette marche, l'on pouvait apercevoir le drapeau de l'UDPS Tshisekedi. Mais au sein de cette formation politique à Kananga, une autre frange s'est déclarée non concernée par la manifestation. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale. Un premier cas d'infection au coronavirus a été confirmé à Toronto chez un homme qui aurait également infecté son épouse. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités sanitaires du Canada, tandis que 19 patients sont sous surveillance à Ontario. Un laboratoire de Winnipeg a confirmé la contamination d'un homme d'une cinquantaine d'années arrivé à Toronto en provenance de Wuhan, point de départ de l'épidémie en Chine. L'infection de sa femme était en revanche toujours présumée hier dans l'attente des résultats de l'analyse.
L'invité.
Comme annoncé, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, est l'invité de ce journal. Dans cette interview exclusive à Radio Okapi, elle dresse notamment le bilan du respect des droits de l'homme en RDC. C'est là une année après l'alternance pacifique que le pays a connue au sommet de l'État. Michelle Bachelet s'exprime aussi sur d'autres questions liées aux droits de l'homme. Elle est interrogée par Alain Rung.
Madame Michelle Bachelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous arrivez en RDC pratiquement une année après l'alternance pacifique que le pays a connue au sommet de l'État. Quel est l'état des lieux que vous dressez des droits de l'homme en RDC aujourd'hui?
Merci beaucoup. I would say there has been a decrease of 3%.
Dans l'ensemble, il y a eu une réduction des violations et des atteintes aux droits de l'homme de 3%. Mais la préoccupation que j'ai le plus, c'est que les acteurs étatiques sont pour 54% responsables de ces violations. C'est en fait ce qui me préoccupe le plus. Mais dans l'ensemble, il y a eu une réduction, mais il y a toujours des violations qui se déroulent et ces violations sont le fait d'agents étatiques pour 54%. C'est ma préoccupation la plus importante. En fait, je voudrais juste parler du cas précis des FARDC, des militaires congolais, qui sont pour 28% responsables de ces abus, de ces violations et atteintes aux droits de l'homme. Et je parle de cas qui ont été vérifiés par notre staff. Donc, je lance un appel à l'État pour que ces abus cessent, pour qu'il y ait des mesures qui peuvent aider à endiguer ce phénomène, ces exactions commises par les FARDC en particulier. Je voudrais aussi parler du fait qu'il y a eu une augmentation de violations et d'atteintes aux droits de l'homme alors de 40% qui ont été perpétrées par des groupes armés. Ces violations sont à la hausse. Il y a aussi une augmentation des violences sexuelles. Donc ça, c'est deux points essentiels sur lesquels aussi je voudrais mettre l'accent. Ce qui est important aussi, il faut le souligner, il y a eu des progrès qui ont été accomplis. Je peux parler du cas précis des droits fondamentaux. Il y a eu une diminution de 26% des violations et atteintes aux droits fondamentaux. Je veux parler du droit à la manifestation, de la liberté de la presse, tout ce qui touche des droits fondamentaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles aussi il faut insister. On n'a pas vu de prisonniers politiques ou de prisonniers d'opinion emprisonnés. Au contraire, il y a eu une libération de ces prisonniers. Donc ça, c'est des progrès qu'il faut encourager.
And of course, demonstrations which should continue to be free and have no repression on that.
Le 10 janvier dernier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport selon lequel au moins 701 personnes ont été tuées dans les conflits communautaires dans le territoire de Djougou en Ituri entre septembre 2017 et septembre 2019. Selon ce document, la grande majorité des victimes des attaques semblent avoir été visées en raison de leur appartenance à la communauté Emma. Le rapport indique qu'il pourrait s'agir de génocide ou de crimes contre l'humanité. Ce rapport, vous le savez, a été contesté par la communauté Lendu, qui le juge partial et truffé d'erreurs. Vous avez rencontré cette communauté à Bunia. Quelle est la réponse que vous leur avez donnée?
Well, first of all, the reason that I went to Ituri is because.
En fait, je suis allé dans le territoire de l'Ituri suite au rapport qui a été publié le 10 janvier. Et sur place, j'ai parlé à toutes ces communautés. J'ai parlé aux Lendu et Eba. En ce qui concerne particulièrement le cas des Lendu, qui ont dit que ce rapport était truffé d'erreurs, je leur ai dit que nous observons une méthodologie qui est la même dans toutes les recherches que nous faisons, dans tous les rapports que nous publions, et ce sont des standards. Nous vérifions les informations, nous allons sur le terrain recueillir des informations que nous vérifions. Donc je leur ai dit que ce rapport, selon moi, était objectif, et mon bureau conjoint, comme partout ailleurs, ils font le même travail, et je crois qu'ils ont fait un bon travail. Maintenant, ils ont montré, ils ont dit qu'ils allaient peut-être nous donner des informations supplémentaires, et qu'on travaillerait dessus. Comme vous le savez, j'ai parlé à la communauté Lendu, je leur ai dire que nous travaillons sur la base d'informations vérifiées et que ce que nous avons mis dans le rapport, ce n'est pas seulement les attaques qui ont été perpétrées par les Lendu contre les Emma. Nous avons aussi enregistré les attaques qui ont été perpétrées par les Emma sur les Lendu et nous les avons inclus dans le rapport. Je leur ai aussi dit qu'il y a eu des abus qui ont été perpétrés par les FARDC, les forces de sécurité congolaises, et que ces abus aussi sont dans le rapport. Ensuite, je leur ai expliqué que nous sommes ouverts à des suggestions, à des informations supplémentaires que vous pourriez nous donner, et nous allons les vérifier et faire de telle sorte que le rapport soit beaucoup plus objectif.
Donc, j'ai invité lui à partager. Any information about human rights abuses and violations that were not included in the report, but for us so it can be verified.
Plusieurs personnalités et organisations congolaises demandent à la CPI de prendre en compte les crimes et autres exactions commis par les groupes armés nationaux et étrangers, notamment dans l'est de la RDC. Quel est votre avis?
Well, we think that justice is an essential element of the pathway to peace. Peace.
Comme vous le savez, la justice est un élément essentiel pour tout processus de paix durable. Nous ne tolérerons aucune impunité et toutes ces personnes qui ont été des auteurs de crimes graves, de violations, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, ces gens-là doivent être traduits en justice. Et en ce qui concerne la CPI, le rôle premier de la CPI, c'est de traduire ces acteurs de violation devant la justice pour qu'il n'y ait pas prime à l'impunité. C'est le rôle essentiel de la CPI. Mais comme vous le savez, la CPI ne peut pas se substituer au gouvernement congolais. La CPI vient seulement en appoint et est d'abord du ressort du Congo, de la RDC, de juger ces acteurs de crimes graves, d'atteinte aux droits humains. La CPI ne peut intervenir que si un gouvernement n'a pas les ressources nécessaires ou les capacités nécessaires pour traduire ces personnes devant la justice. Et ça se passe comme ça. Je voudrais aussi parler des progrès qui ont été accomplis dans le domaine judiciaire. Nous avons vu ces progrès surtout en ce qui concerne la justice militaire. Aussi bien du côté des groupes armés, aussi bien du côté des forces de sécurité nationale, il y a eu des hauts commandants qui ont été arrêtés, qui ont été jugés. Ça, ce sont des progrès louables et nous sommes très contents de voir que dans ce domaine, le gouvernement est en train de faire un très grand progrès. Et nous allons continuer à leur apporter notre assistance, notre soutien pour que ce système soit beaucoup plus renforcé et que tous ces auteurs de crimes graves, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre soient traduits devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes.
So I would always also like to underline our commitment to continue providing technical assistance and other kind of support to the judiciary.
Dernière question, Madame Bachelet, pour terminer cet entretien. Les droits de l'homme, vous le savez, c'est aussi les conditions carcérales qui sont déplorables en RDC où l'on a enregistré plusieurs décès des prisonniers. Quelles sont vos recommandations de manière générale aux autorités congolaises pour améliorer le secteur des droits de l'homme?
Well, the first thing is I'm really, really concerned to hear about the conditions of prisons.
Évidemment, la situation des prisons à RDC est une situation très préoccupante. Nous sommes au courant des conditions infrahumaines dans lesquelles les prisonniers vivent, la surpopulation carcérale, le manque de nourriture adéquate. Mais en fait, nous avons eu à parler avec le gouvernement et ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait. Ils ont parlé d'une initiative qu'ils vont avoir. Ils vont faire le tour de toute la RDC, voir l'état des prisons à RDC. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas en une minute ou en une journée construire des prisons, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des moyens pour diminuer, par exemple, cette surpopulation. On peut voir, par exemple, cas par cas, les gens qui ont commis peut-être des délits mineurs, qui sont en attente d'être jugés. Peut-être qu'on peut essayer d'aménager, de voir comment est-ce qu'on peut libérer ces gens pour, en fait, permettre à ces prisons d'avoir un niveau de population moindre. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Et ce qui est bien, c'est qu'on a parlé au gouvernement, au ministre de tutelle, ils nous ont donné l'assurance que quelque chose sera fait et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour leur apporter notre soutien dans cette initiative.
They are aware of this and they have told me that they're going to take additional measures to try to address the problem.
Madame Michelle Bachelet, je rappelle que vous êtes la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivie.